Prise 2, bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast du site web l'actu.ca. C'est que prise 2 parce que j'avais oublié de démuter le son. MMO, parle donc voir si tout est correct.
Allô, test.
Parfait, tout semble correct de ton côté, tout semble correct du mien, c'est parfait ça. C'est que bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de l'actu, un podcast fait en live directement, c'est que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, YouTube et Twitch. Twitch, on est sur l'acronyme, le nom, on pourrait dire, de l'actu underscore CA ou l'actu en bas CA. Et après ça, Facebook, l'actu, podcast et blog d'actualité, également le même nom sur YouTube, l'actu, l'actu.ca, c'est-à-dire podcast et blog d'actualité. On est principalement, c'est notre premier podcast, on fait le test aujourd'hui, voir si tout va bien se passer. Dans le fond, on est un podcast sur principalement l'actualité informatique et les médias culturels, on pourrait dire. C'est que, étonnez-vous pas si des fois on peut parler de District 31 ou des choses comme ça. C'est pas impossible qu'on puisse en parler également. Mais on est deux fans d'informatique à la base. Je vous présente mon co-animateur pour ce soir, Monsieur MMO.
Hello, bonsoir à tous.
C'est que MMO qui est... travaille dans l'informatique depuis longtemps, qui a organisé et monté des LAN également depuis très longtemps. Bref, on est deux passionnés de nouvelles technologies d'informatique. C'est avec qui on va essayer de vous résumer un peu à notre sauce qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Du moins, dans la dernière semaine, ça a été quand même très chargé. On parle juste qu'il y a eu la keynote Apple. Il y a eu également la sortie de la GoPro Hero 9. Toi, MMO, tu nous parlais qu'il y avait des nouveaux périphériques de disponibles chez Razer et SteelSeries.
Oui.
C'est que ça va être intéressant à vérifier ça et à regarder ça ensemble. Également, ben je pense que c'est pas mal ça pour ce qui est de notre podcast. On va pouvoir commencer ça directement. C'est que je te laisse commencer, MMO. Parce que dans la V1, tu étais bien parti, mais malheureusement, il n'y avait pas de son. C'est que tu as juste à nous partager ton écran et nous commencer ça.
Parfait. Donc, on va commencer par les premiers produits dans quelques instants. Donc, les produits de chez Razer. Donc, Razer et SteelSeries. Je vais commencer par Razer en premier lieu. Ont sorti leur nouvelle gamme. Oh, et petit coquille. Ouais. Donc, les nouveaux produits de chez Razer. Donc, le Black Widow Wireless maintenant. Mm-hmm. Le Razer Dead Adder. Aussi wireless avec le nouveau bouton donc, qui est dédié dans l'élite qu'on voit ici à la droite. Et aussi le casque d'écoute Black Shark V2 wireless. Et c'est toute une nouvelle gamme de produits chez Razer là, pour les gamers et surtout les gens qui adorent le wireless, mais adorent Power the Field sur son bureau.
Ben, c'est ça, c'est tout ça. Les maniaques de cable management, comme on pourrait dire, les maniaques de ne pas voir de fil, ben, le wireless est une solution vraiment intéressante. Quoique pour les gamers, wireless, des fois, ça met un gros X, puis ça fait un, j'ai peur, parce que du wireless, c'est égal à de la latence pour certaines personnes.
Malheureusement et heureusement plutôt, malheureusement pour ce mythe-là, c'est plus ou moins vrai maintenant. Ils ont sorti une nouvelle technologie qui permet une connectivité en dedans de 1 ms, si quelqu'un parle, donc 1 milliseconde.
Quand on est rendu dans 1 milliseconde de délai, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Souvent, les écrans gamers vont avoir souvent du 1 milliseconde, mais des fois, ils vont avoir du 2, voire même certains cas, des fois du 5 millisecondes. C'est que je pense qu'un milliseconde de délai en wireless, c'est, ma foi, terriblement raisonnable. Puis, la technologie existe depuis longtemps, à mon avis. Non? Ça fait que, je pense que ça peut devenir relativement fiable et intéressant.
C'est ça. Fait que les nouveaux produits de chez Razer, donc pour les passionnés de Razer, parce que c'est une nouvelle gamme de produits. Moi, personnellement, Razer, maintenant, malheureusement, avec les touches qui sont relevées du clavier, m'intéressent plus ou moins. On dirait que le RGB n'est plus présent, mais ça, c'est chacun ses goûts.
Pour la suite... Vois-tu, moi je suis pour cette mode-là. Autant il y a des fans... je suis pas fan de certaines modes, mais la mode de la touche qui sort vraiment du clavier, puis tout est comme sur la même touche, je trouve ça intéressant, je trouve ça hot. Est-ce que le clavier... Est-ce que c'est vrai que les claviers n'ont pas de touche Z? Madville qui pose la question sur Twitch. Non, c'est faux, Madville. Les claviers ont une touche Z, évidemment. C'est évidemment une blague. C'est pas plus grave que ça. Non, c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je trouve ça plus beau. Moi, j'en ai un Razer devant moi. Et je trouve ça plus beau avec les touches qui ressortent plus du clavier. Là.
Mais je suis personnel. Good, c'est ça. Ensuite de ça, ben pour continuer dans la série Gamer, pour périphérique surtout, style série, je viens juste de l'apprendre, tu sais, je suis allé vérifier dernièrement. Ouais. Eux ont eu beaucoup de pertes dans les dernières années à cause de Razer.
Ben, Razer, Corsair, même des marques qu'on ne connaissait pas comme Ducky ou même Glorious, qui étaient des marques qu'on ne voyait pas dans les périphériques gaming, sont apparues puis qu'ils ont été poussés par des streamers. C'est sûr que SteelSeries a dû manger ça chaud dans les dernières années. Ça, je dois le confirmer. Ouais.
C'est ça. Mais là, avec leur nouvelle gamme, quand même, de nouveaux produits, moi, je les adore quand même. Moi, j'étais un fan de SteelSeries dans ses départs, dans ses débuts, beaucoup. Comme je dis, il y a une année qui ont comme perdu la mentalité du gamer parce qu'ils ont comme ils disent « Ah, tout le monde nous achète, on va laisser ça. » Mais là, ils commencent à reprendre un petit peu du galon. Donc là, mais récemment, ils ont ressorti, je viens de le voir ici, le Rival 3 Wireless. Donc, il n'y avait pas beaucoup de produits sans fil chez Razer dans les périphériques, surtout souris et clavier.
Chez SteelSeries?
Oui. Donc, pas de problème. Donc, la série Rival 3 Wireless qui était la nouvelle souris. Donc, c'était la nouveauté. Surtout les casques d'écoute maintenant qui sont disponibles sur les consoles, donc Xbox, ces choses-là.
Niveau casques d'écoute, ils sont encore très performants. Je n'entends un peu parler au niveau des casques d'écoute parce qu'ils ont des technologies relativement intéressantes. Ils ont quand même un beau design, c'est pas agressif. C'est quand même quelque chose de soft. Ça fait pas trop plastique, ça fait pas trop, tu sais. Ça fait pas cheap, ça fait beau.
Comme Turtle Beach.
C'est ça un peu. Mais tu sais, c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment, vraiment beau les nouveaux casques SteelSeries. Ils font soft. C'est que ce serait essayer de voir si la qualité reste présente autant qu'un très bon casque souris. Excuse-moi, un très bon casque micro-casque, tout simplement. Mais c'est sûr que moi et toi, personnellement aussi, on utilise des setups différents. Hein, t'sais. Personnellement, moi, j'ai un micro-rod avec. La Yamaha AG06, toi t'as un Blue Yeti. C'est tous des systèmes différents également, c'est des alternatives. Puis souvent les gamers vont commencer à aller dans des setups plus dans ce style-là. Bonsoir, Pika Blue. Je lis le chat en même temps. Tu peux continuer, même.
Parfait. Donc ça fait le tour pour du côté de la série. Donc les périphériques, c'est sûr que. Présentement, ils n'ont pas eu de grosses nouveautés, donc c'est juste des upgrades à, comme je dis, pour faciliter un peu le travail à la maison.
C'est ça. C'est que le Wi-Fi, pas le Wi-Fi, excuse, le sans fil amélioré, puis tantôt, sur la souris que tu nous montrais de SteelSeries, on voyait également plus 400 heures d'autonomie.
C'est ça, non, 400 heures d'autonomie. Ouais, dual wireless, fait que...
Ouais, dual wireless, puis plus 400 heures. Tout ça pour un prix de 69$ canadien, c'est quand même c'est pas cher. Puis je vois qu'il est compatible Bluetooth 5.0 également. C'est intéressant comme petite souris, peut-être d'ordinateur portable, quand on veut traîner quelque chose rapidement, à mon avis. quelque chose qui pourrait m'intéresser.
Mais la technologie aussi qui se trouve dedans, dans les souris de gamer, on a beaucoup, si je me rappelle bien, en tout cas, on a une technologie qui se retrouve dans pas mal de souris. SteelSeries et Razer, ainsi que pas Corsair, mais Logitech ont leurs propres produits. Donc, chacun a sorti leur capteur optique différent.
Oh, ouais.
Chez SteelSeries, c'est TrueMove. Razer, je ne me rappelle plus du nom. Puis Logitech, c'est la technologie Hero Plus. Parce qu'avant, c'était toute une même seule compagnie qui faisait le capteur. Maintenant, ils ont chacun leur capteur optique ou plutôt laser. Ce qui donne de la précision. Puis surtout, des fois, on a besoin que ça soit plus rapide. Donc, on fait juste un petit bouton, on clique sur un bouton. Voilà, on a notre setup de que notre souris bouge plus rapidement, soit sur notre navigateur, soit dans certains jeux. Donc, j'adore beaucoup ces produits-là pour ça.
Ouais, ça a l'air vraiment intéressant, comme tu dis. Vraiment un très beau produit de la part de SteelSeries qui vient de nous sortir à un prix, ma foi, je m'attendais plus cher, bien sincèrement.
Non, ils ont beaucoup baissé leur prix. On pourrait faire le tour sur les claviers On a beaucoup de modèles, surtout là-dedans. On a les Apex Pro et les Apex normal, qu'on pourrait dire. Je ne sais pas si tu as déjà vu un ou vous, vous avez déjà vu l'Apex Pro. Elle a une actuelle. Quand on pèse sur la touche, plus qu'on va peser fort, plus qu'on va aller vite. Moins qu'on va peser fort, moins qu'on va aller vite. Donc, ils ont cette technologie-là à l'intérieur du Apex Pro.
C'est quand même marqué dans la description OLED Smart Display. C'est-à-dire qu'il y a un écran dessus OLED, littéralement.
Oui, ici, là, à droite. Là, ici,
intéressant. Ouais, c'est sûr que leur. C'est leur gros clavier. Tu peux l'avoir en français directement.
Oui, surtout. Ben, c'est français de France. C'est pour ça que France, en anglais, en français. Mais si je crois bien. On va checker le français. Sûrement, c'est le
Azerty. Parce que normalement, ça serait marqué genre.
Ouais. Mais en anglais, du meilleur du autre.
C'est cool, tu peux sélectionner directement la langue de ton avis que tu as besoin directement sur le site.
Je m'ai toujours demandé entre anglais américain et anglais british, quelle touche qui est différente.
souvent, c'est sûrement au niveau des accents ou des trucs comme ça. C'est comme moi, on, ici au Canada, souvent les claviers gamers ont tous des claviers américains, en fait. Puis les touches changent, mais on finit par se retrouver quand même au bout de la ligne. C'est que, ok, ouais, je comprends le principe, mais c'est pour les personnes qui regardent directement le live sur Twitch ou sur Facebook ou sur YouTube, vous allez pouvoir voir directement l'image de la pression de la Switch qui détecte la pression, en fait, directement de la Switch.
C'est ça. Donc,
Lenske Kester, bonjour, Matt. D'après moi, il ne parlait pas à moi, finalement.
Fait que c'est ça. Ça change beaucoup. Puis on voit aussi la différence entre une Switch qui est plus rapide, qui est la dernière Switch de sortie de la compagnie Cherry, qui est la MX Speed, donc qui avait un délai de 5 millisecondes, excusez-moi. Et là, on a 0,7 millisecondes.
C'est extrêmement
0,7, tu fais comme, personne ne peut atteindre ce clic-là.
Non, bien sûr, c'est fait avec des ordis. Personne ne peut atteindre ça.
Donc, c'est un robot qui le fait. Par contre, ça nous permet... tu fais juste effleurer la touche et malheureusement, tu as activé la touche.
Ah, mais c'est fou quand même. C'est fou.
C'est ça. Fait que ça change beaucoup la donne.
Peut-être un prochain périphérique quand je vais décider de changer tous mes périphériques.
Peut-être, moi, je vais l'avoir. J'hésite encore. Je vais peut-être l'acheter, mais dans le modèle TKL. Donc, le modèle TKL qui est keyless. Donc, moins de de touches. Donc, ce modèle-là. Mais tu sais, pour 20$, c'est différent. Si t'as pas de notepad.
Ouais.
C'est ça. Ouais. C'est un petit peu tannant parce que surtout notre pan, on l'utilise beaucoup plus en informatique.
Ouais.
Pour entrer les numéros de téléphone.
J'ai utilisé énormément le notepad.
Mais tu sais, on peut changer les touches pour des macros aussi, c'est exemple.
Ouais, j'avoue. C'est quand même pas pire. C'est que prochaine actu, ça ressemble à quoi, mon cher? Ah,
la nouveauté. Ben, c'est pas une nouveauté. Peut-être vous l'avez déjà passé. C'est chez AMD. Ryzen, donc tout ce qui est série Ryzen 4000-3000, il n'était pas encore dans les Chromebooks.
Ok,
donc, j'ai vu ça cette dernière petite, surtout les étudiants qui aiment beaucoup avoir un petit portable, pas très cher, mais fonctionnel.
On rappelle pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un Chromebook et qui ne savent pas de quoi qu'on parle, un Chromebook c'est vraiment un ordinateur ultra léger, c'est pas Windows qui roule dessus, c'est Chrome OS, le système d'exploitation. Chrome OS, si vous faites le lien, c'est Google en fait. C'est comme une espèce d'Android, mais c'est pas Android, c'est vraiment Chrome OS. C'est dans le fond un navigateur Chrome, mais avec plein d'outils que vous avez évidemment à l'intérieur, comme un tableur, un éditeur de texte, un logiciel pour des présentations, des choses comme ça. Dans le fond, c'est un ordinateur ultra léger, souvent pour le monde qui font juste la navigation web. C'est parfait. Juste faire des petits traitements de texte. Merci, bonsoir. C'est parfait. Ça fait parfaitement le travail, bien souvent. Ce qui va arriver maintenant dans les Chromebooks, est-ce que tu m'amenais comme information?
Oui, c'est ça. Donc, c'est une nouveauté donc qui n'était pas encore dans l'industrie des portables. Ben, pas des portables, mais des Chromebooks. Donc, Ryzen maintenant, font leur processeur adapté au Chromebook. Donc, moins énergivore en termes d'électricité. Donc, on paye du 15 watts. Au lieu, je pense, c'était du 35 ou 45 watts selon le modèle de Ryzen qu'on avait.
Effectivement, mais on check quand même, ça reste qu'il va quand même avoir un Ryzen 7 3700C qui appelle, qui est quand même un 4 cœurs 8 threads à 4 GHz en turbo. Oui. Ça doit être un seul cœur, les 4 GHz. Là. Ça doit pas être sur les 8.
Non, ben, c'est ça.
C'est ça, mais quand même 2.3 de base, 6 MB de cache. Il y a le 10e Radeon Custer, ça je connais pas, mais c'est la partie graphique de Radeon 10. 15 watts de consommation, il est en 12 nanomètres avec l'architecture Zen Plus. C'est quand même impressionnant pour 15 watts de consommation. C'est surprenant. Là, après ben, ça, on va se dire, il n'y a pas grande différence aussi avec le Ryzen 5 3500C. Là. Mais c'est quand même impressionnant.
Moi, je lève mon chapeau à Ryzen parce que depuis série Ryzen, plus simplement, ils mettent vraiment un nouveau pied qui avait perdu dans le marché des processeurs. T'sais, on s'entend, Intel, pendant nombreuses années, c'est les meilleurs, c'est ici. Moi, j'ai connu dans le temps que AMD, avant, on s'entend, il y a 19-18 ans de ça, AMD, c'était meilleur qu'Intel. Point à la ligne. Mm-hmm. Dès qu'on a commencé à avoir deux cœurs chez AMD, les X2 d'AMD, c'est là que Intel a commencé à dire wow, wow, on est en retard, on va battre ces gens-là.
C'est ça, puis Intel a forcé. Intel a forcé énormément avec leurs séries, surtout les séries Core 2 Duo ont frappé fort. Puis après ça, avec l'arrivée des i3, i5, i7, leur nouvelle gamme qui était divisée en 3, a frappé un énorme coup sur AMD là-dessus. Et après ça, on se rappelle que AMD, dans les dernières années, c'est tout le temps ça qui se passe quand une compagnie s'assoit sur ses lauriers. Hein. C'est-à-dire, si je me souviens bien, c'est de la deuxième génération de chez Intel, c'est-à-dire les i3, i5, i7 gravés, quand vous voyez, c'est marqué 2000 quelque chose, comme 2640, si je donne des chiffres comme ça. C'est la deuxième génération. Jusqu'à la septième génération, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire on parle quand même de 5 générations, sont restés, tu sais, comme le processeur le plus puissant du marché était un 4 cœurs 8 threads. Il n'y avait pas d'évolution. Il y avait zéro évolution là-dedans. Et ce qu'à AMD ont fait, ils ont créé leur nouvelle architecture Ryzen et sont devenus donner un grand coup de pied aux fesses d'Intel en sortant leur Ryzen 5 et leur Ryzen 7 révolutionnaient tout. Parce que le Ryzen 3 était un 4 cœurs 8 threads aussi dans la version la plus puissante, si je me rappelle bien. Je me rappelle vraiment bien. Puis après ça, tu avais le Ryzen 5 qui était un 6 cœurs 12 threads. Puis tu avais le Ryzen 7 qui était un 8 cœurs 16 threads. Puis Intel, on sait pas quoi faire. Ça veut dire qu'on va sortir une 8e génération en urgence.
Les Threads Reaper, c'est des marchés aussi qu'Intel ont acheté dans les dires que les techniciens disaient que certains des compagnies, les créanciers d'Intel, ou plutôt des actionnaires d'Intel, ont allé chercher des actions d'AMD dans leur système de recherche. Donc, c'est pour ça que pendant un bout, on a eu les phénomènes que le monde dit « Ah, c'est pas si bon que ça » ou « Ça surchauffe ». Fait que là, ça a pris beaucoup de recul. Mais maintenant, je te dirais, comparatif, j'ai le choix Intel et Ryzen. Je game. Je fais pas d'autre chose que jouer à des jeux. Je fais pas de la codage de vidéos.
Pareil, j'ai bâti mon nouveau PC l'année passée et j'avais le choix entre Intel et Ryzen. Je suis allé à 100% avec Ryzen. C'était juste trop intéressant pour le prix. C'était juste... j'avais un processeur très puissant avec beaucoup de cœurs. Puis je pouvais mettre plus d'argent justement sur ma carte graphique puis aller chercher quelque chose de vraiment plus intéressant pour le prix vs Intel. C'est que Ryzen, vous savez, vont être dans les Chromebooks et vont sortir des tout petits processeurs de low consommation, mais qui sont quand même puissants. C'est ça la prouesse, dans le fond, qu'ils ont réussi à faire là-dessus. OK, là, qu'on parle directement avec... c'est ça, Modem Web App, Rich Web Compare, Modem Web App. Ok, ça c'est Octane.
Avec Octane 2.0 puis Speedometer 2.0. Donc, tout ce que tu vois dans la navigation web, il compare les vitesses, donc avec des modules d'application que tu mets dans, sûrement dans Chrome. J'ai jamais testé personnellement.
Ils comparent avec leur propre processeur, un A6 9220C.
Qu'était leur processeur d'entrée de gamme pour. Du Chromebook. Là, on parle de Ryzen qui tombe dans le Chromebook.
C'est ça, le Ryzen tombe dans le Chromebook, puis on voit que les chiffres sont quand même, en minimum, le plus petit chiffre qu'on voit, c'est quand même 110% plus puissant. En minimum.
C'est ça.
C'est vrai que le maximum que vous allez être capable d'en tirer, c'est jusqu'à 178 fois plus puissant. C'est pratiquement deux fois plus puissant. Ben, en fait, c'est pratiquement trois fois plus puissant plus. C'est vraiment intéressant que Ryzen se lance dans ce marché-là. C'est un marché qui est allé forger pour justement dégager tout ce qui est les Pentium Gold puis les Celeron de ce monde. À mon avis, peuvent
avoir
très peur.
Ils sont pas mal mourir.
C'est ça, parce qu'on va se le dire, un Celeron, c'est pas impressionnant niveau performance.
Non, c'est que, non, vraiment pas.
Ta prochaine actu, mon cher?
Ben, j'avais pas d'autres actualités. Okay. J'avais une grosse. C'était pas mal mes principales. Ben,
c'est déjà des bonnes actualités, je te rassure.
Mais sinon, moi, les principales informations, trois sites, je peux les donner. PC World, PC Performance. Ça me permet de savoir les technologies qu'on a.
On suit beaucoup ce genre de site web-là. Là, c'est moi un peu qui va te partager. Mon écran, c'est qu'on va commencer par la marque que tout le monde déteste, c'est-à-dire, comment je peux faire ça? Je vais laisser là, puis je vais partager ça, passer en direct. Voilà, puis je reviens ça comme ça. Voilà. C'est que la fameuse marque que tout le monde déteste, Apple, directement... C'est que j'ai pesé directement sur la montre sans faire par exprès, je suis désolé. Apple qui ont fait une keynote la semaine passée. Faut que je sois à cliquer ici pour que ça marche. OK. Apple qui a sorti trois nouveaux choses dans leur keynote de la semaine passée. Tout le monde pensait qu'il allait sortir un iPhone. Effectivement, Apple, la première chose qu'ils ont dit directement en commençant, c'est... Nous ne présentons pas de nouveau iPhone. C'est que OK, c'est qu'ils ne présentent pas de nouveau iPhone. On parle que le nouveau iPhone serait présenté au courant du mois prochain, c'est-à-dire au courant du mois d'octobre, pour ceux qui écoutent ce podcast. Et dans le fond, ils ont sorti deux nouvelles Apple Watch et deux nouveaux iPad. ils n'ont pas sorti d'iPod, ça fait une éternité, là. C'est que si on compare dans les deux nouvelles versions de l'Apple Watch, si on va voir directement dans Watch ici en haut, à chaque fois, il va falloir que je clique comme ça, que j'aille cliquer quelque part. C'est que nous avons la nouvelle Apple Watch Series 6 qui nous donne direct à partir de $529 canadiens pour ceux qui s'intéressent.
Ouf.
Dans le fond, la nouvelle Apple Watch Series 6, pour ceux qui se demandent, grosso modo, c'est un Apple Watch Series 5. Mais avec la possibilité de calculer l'oxygène dans le sang, à ce que j'ai pu comprendre, et quelques autres petites améliorations à gauche, à droite. Évidemment, de nouveaux bracelets également aussi qui vont être disponibles, comme tu peux voir, les Infinite Loop, comme tu peux voir sur les photos, ils n'ont pas d'attache. C'est des bracelets un peu extensibles, en fait. Tu vas juste faufiler ta main dedans. Comme tu as la version silicone là, que je me demande encore aujourd'hui comment ça fonctionne, parce que moi j'ai un bracelet silicone sur mon Apple Watch, puis je vous confirme que c'est zéro extensible. Et il y a la version tissu également que tu peux voir aussi, que elle, je peux comprendre qu'elle soit extensible, c'est un peu comme un élastique, mais c'est ça, c'était pour présenter principalement ces deux nouveaux bracelets là qui sont disponibles en plusieurs couleurs et plein de trucs comme ça. Il y a une nouvelle version de cuir également aussi qui est intéressante. Le prix des bracelets, à ce que j'ai pu observer, a baissé également. Avant, un Apple... surtout, c'est avec la nouvelle création de l'Apple Watch, parce que t'as comme trois options dans les Apple Watch. T'as la version aluminium, la version acier et la version titane. La version céramique n'existe plus, malheureusement. Ça veut dire qu'il y avait des amateurs de la version céramique qui était un boîtier en céramique. C'est comme la céramique composataire.
Ouais.
C'est avec il y a juste ces trois versions-là, mais maintenant, avec le nouveau créateur, tu peux littéralement, nouveau créateur de monde, tu peux aller chercher directement l'Apple Watch qui te maintient, à qui tu préfères directement. C'est-à-dire, tu peux aller chercher un bracelet plus haut de gamme et prendre un boîtier en aluminium et tu vas sauver de l'argent littéralement. Ce qui n'était pas trop possible avant de faire. C'est que, évidemment, ils ont sorti aussi une Apple Watch SE qui est à partir de 369$. En fait, l'Apple Watch SE, c'est un peu comme l'Apple Watch Series 6. Elle a le même format. Sauf qu'elle n'a pas des technologies comme l'électrocardiogramme qui était la nouveauté de l'Apple Watch Series 5 de l'année passée. Elle n'a pas la mesure pour mesurer l'oxygène dans le sang non plus. Et elle n'a pas le always off display. Dans le fond, le always off display, c'est le fait que ton écran reste toujours allumé, mais au lieu de virer à 60 Hz, ton écran vire à 1 Hz. C'est-à-dire que l'écran se rafraîchit une fois par seconde, ce qui fait un peu comme un papier électronique. Et en fait, vu que l'écran se rafraîchit une fois par seconde, ben ça bouffe moins la batterie, en fait. C'est que c'est un fait pour que tu gardes toujours ta montre allumée. Je vous rappelle que cette option-là est uniquement disponible dans la série 6 et pas dans la version SE. C'est que dans la version SE, il faut tourner le poignet pour ceux qui ne savent pas. C'est que quand vous tournez le poignet, l'écran l'allume automatiquement à cause du gyroscope intégré. C'est que c'est pour les personnes qui veulent littéralement avoir un Apple Watch moins cher, sans avoir les dernières grosses technologies, mais en ayant des fonctions essentielles et en ayant le design de l'Apple Watch actuel. C'est ça que je trouve cool. Évidemment, aussi, l'Apple Watch Series 3, comme on peut voir sur l'écran, est toujours disponible à partir de maintenant de 259$. C'est-à-dire qu'on a trois versions d'Apple Watch qui sont littéralement la 6, la SE et la 3. Comme vous voyez aussi un peu les spécifications un peu à l'écran. Les trois modèles, ce que je trouve cool, c'est qu'ils sont étanches 50 mètres. C'est que tu peux te baigner littéralement avec ton Apple Watch. Pas de danger, parce que la mienne, je panique à chaque fois que je me lave les mains parce que j'ai une première génération. C'est que c'est quand même intéressant là-dessus. Puis après ça, si évidemment vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur qu'est-ce que fait ce nouveau capteur, je vous invite fortement à consulter le site web d'Apple. Vous allez pouvoir en prendre un petit peu plus. Mais comme je vous dis, principalement, c'est pour mesurer... ici, c'est là qu'on voit le créateur de bracelets. On voit les nouveaux bracelets également qui sont infinis. À part le bracelet en tissu, mais le bracelet en tissu tressé, le nouveau bracelet en cuir également et le nouveau bracelet en silicone qui est les Infinite Loops comme on peut voir en ce moment. Et nouveau iPad aussi. Et là, il faut que je reclique ici et encore ici. Deux nouveaux iPads. Des refreshs d'iPad en fait. C'est pas des nouveaux iPad en soi. C'est un nouveau iPad classique, on va appeler. Un iPad de 2020, comme on aime les appeler. Et le iPad Air, c'est principalement ces deux nouveaux gros iPads-là. Le plus étonnant de tout ça, c'est vraiment le nouveau iPad Air. Le nouveau iPad Air 2020 de cette année. Qui a, je ne sais pas si tu avais déjà vu les iPad Pro de nouvelle génération MMO.
Oui, mais c'est assez.
Il ressemble, mais comme deux gouttes d'eau. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui veut s'acheter un iPad Pro, mais qui n'a pas le budget, va prendre la version Air parce que la version Air commence à 779$, qui est beaucoup moins dispendieuse que l'iPad Pro. C'est à peu près la même grandeur d'iPad qu'un iPad Pro 11 pouces, mais c'est un iPad Pro. C'est un iPad Air, excusez-moi, avec 10.9 pouces d'écran. C'est que c'est pas 11 pouces d'écran, c'est 10.9, mais c'est à peu près le même gabarit en termes d'iPad. Utilise le nouveau Apple Pencil deuxième génération, comme l'iPad Pro, et est compatible avec le Magic Keyboard d'Apple, le fameux keyboard à 429$, 399$ si je me souviens bien. Faudrait que j'aille voir juste ici. Puis après ça, on va cliquer ici. C'est que c'est ce nouveau Magic Keyboard-là, en fait. C'est celui-là qu'on voit dans le milieu ici, qui est compatible avec cet iPad Air-là. C'est que vous le voyez, l'iPad a l'impression de léviter dans les airs parce que le dos est magnétique et a un port USB type-C de supplémentaire. C'est que vous pouvez charger votre iPad par le port USB type-C ici sur le clavier et utiliser le port USB type-C du nouveau iPad Air parce que le nouveau iPad Air est maintenant rendu sur USB type-C aussi. pour brancher justement un périphérique comme une clé USB, un disque dur ou un adaptateur pour sortir en écran ou quoi que ce soit. Je vais recliquer ici juste pour vous le montrer. Et c'est ça, le Smart Keyboard, ça c'est le standard. Lui, il va être compatible avec le nouveau iPad 2020, c'est-à-dire le iPad de 8e génération, comme il appelle ici. On le voit qu'il est compatible, c'est marqué iPad 7e et 8e génération, il est compatible. Lui, il est à partir de 219$ et il y a le... je le vois pas. Ici, non, ça c'est le portfolio, excusez-moi. Ici, le Magic Keyboard à partir de 399$, que lui va être compatible avec le iPad Air 4e génération et le iPad Pro 11 pouces de première et deuxième génération. C'est le même clavier. C'est-à-dire, le clavier maintenant est compatible pour le iPad Air et le iPad Pro 11 pouces. C'est le même clavier. Le 12 pouces est un peu plus grand. Le clavier est un petit peu plus cher aussi. Mais tu vois que c'est un clavier qui intègre un trackpad. C'est ça au niveau de la petite actualité de l'iPad Air. En fait aussi, ça intègre un processeur beaucoup plus puissant. On parle de l'A14. C'est la première puce, ça c'est un fait intéressant que je pense que tu vas trouver intéressant aussi. C'est la première puce gravée en 5 nanomètres à être commercialisée au monde.
Petit?
C'est petit. Déjà que AMD avait sorti l'année passée leur Zen 2, qui était les Ryzen 3000, en fait, qui sont gravés en 7 nanomètres. Le monde capotait, était là, my God, que c'est petit. Mais ben là, Apple vient de franchir la limite plus loin avec un processeur ARM, basé sur l'architecture ARM, en fait, qui ont eux-mêmes développé, qui s'appelle le A14 et qui est gravé en 5 nanomètres. C'est le premier produit à intégrer un processeur 5 nanomètres. Et laisse-moi dire que c'est une des premières fois. La dernière fois, je pense que c'est quelque chose comme en 2012, que Apple sort un iPad plus puissant que l'iPhone avant l'iPhone. Ça fait quand même, ça chamboule un peu le marché. Mais évidemment, c'est sûrement le processeur aussi qu'on va retrouver dans le nouveau iPhone. Et c'est peut-être un dérivé de ce processeur-là qu'on va retrouver dans les nouveaux MacBook Air architecture ARM également qui vont sortir d'ici la fin de l'année. C'est que, du moins qui vont être présentés d'ici la fin de l'année. Et évidemment, on va suivre l'actualité là-dessus aussi. Parce que même si vous n'aimez pas Apple, Apple sont en train d'innover en ce moment et c'est des choses qu'ils n'ont pas faites, à mon avis, depuis très longtemps. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que le monde commence à s'exciter. Évidemment, un refresh du iPad, c'est la 8e génération des iPads classiques. C'est un refresh. C'est un iPad à partir de 429$. Ça casse tous les prix. C'est le iPad le moins cher. Est quand même très puissant avec une puce A12X, si je ne me trompe pas, ou c'est A12 tout court, ça se pourrait aussi. Et cet iPad-là, en fait, est compatible avec l'Apple Pencil de première génération. C'est que vous pouvez faire des dessins ou quoi que ce soit avec l'Apple Pencil de première génération, qui est un peu moins cher que la deuxième en plus. Et compatible également avec un clavier, c'est vraiment le iPad. Il vise énormément, à mon avis, le scolaire avec ça. C'est un iPad qui est pas cher, qui est quand même puissant, qui fait quand même un très bon travail, qui est à jour également. OK, c'est pas des caractéristiques de Mongol, c'est comme la caméra en avant, c'est 1.2 mégapixels, mais quand même, il y a une caméra en avant, puis en arrière, c'est 8 mégapixels. Mais tu sais, ça reste que c'est un iPad à 429$ et c'est ça, à mon avis, qu'ils veulent aller frapper comme coup. Un iPad qui est pas cher, qui est consacré à l'éducation, qui est quand même puissant, qui fait parfaitement le travail. C'est que, ou si vous voulez tout simplement avoir un iPad pour faire de la navigation web et jouer à vos petits jeux Candy Crush et des choses comme ça, ben foncez vers le nouveau iPad. 429, c'est pas cher. Vers ce que juste l'iPad Air, c'est pratiquement deux fois le prix à 779, juste pour vous dire. Mais la puissance n'est pas pareille non plus. Et la technologie non plus. C'est ce qui résumait. Comment, oui?
Surtout le besoin qu'on a à faire avec l'iPad.
Oui, c'est ça. Dépendamment de vos besoins, comme je vous dis, si vous faites de la navigation web, vous écoutez des vidéos et jouez à des petits jeux, l'iPad classique est suffisant pour une grande partie de la population. Et c'est pour ça que je vous dis 429, c'est vraiment pas cher. Quelqu'un qui a besoin d'un petit peu plus de performance, comme moi, j'irais beaucoup plus, à mon avis, du côté du iPad Air. parce que je regardais énormément pour m'acheter un nouveau iPad Pro. C'est ce que j'ai actuellement chez moi, mais j'ai un iPad Pro de première génération dans la 12 pouces. Dans le 12 pouces. C'est-à-dire que là, on est dans un iPad qui commence à dater. Si je me rappelle bien, le mien date de 2015 dans ce coin-là. C'est que le mien a 5 ans, commence à dater un peu. Et je regardais peut-être pour éventuellement me racheter un nouveau iPad, puis je me disais, si je m'achète un nouveau iPad, je ne vais pas aller vers le 12 pouces parce que je cherche plus à le traîner, celui-là. Contrairement à mon iPad 12, je le laisse tout le temps chez nous, il est trop gros. Je ne peux pas le trimballer. C'est juste trop énorme. C'est que je cherchais à rapetisser un peu. C'est pour ça que je regardais vers le iPad Pro 11 pouces, excusez-moi, qui était beaucoup plus facile à transporter. Et là, ils viennent de sortir l'iPad Air. My God, je pense que je vais peut-être m'en lancer un. En tout cas, je vous ferai le boxing sur la chaîne ou quoi que ce soit, quelque chose comme ça. C'est ce qui résumait l'actualité de chez Apple cette semaine. Évidemment, on attend également, ils vont sortir d'autres news concernant leur nouveau iPhone qu'on va vous parler également aussi. Évidemment, ils ont sorti aussi, juste pour fermer la parenthèse, tout ce qui est iOS 14, leur nouveau système d'exploitation. Je vais peut-être le voir ici. Ah, ça, je vais vous en parler. Ils ont annoncé ça aussi. Mais on le voit pas. Mais dans le fond, tout ce qui est iOS 14, tout ce qui est WatchOS, la nouvelle génération, tout ce qui est iPadOS et Apple TV OS aussi, dans le fond, cherchez à mettre tout simplement vos appareils à jour, sont compatibles. Et pour ce qui est de iOS 14, qui est le système d'exploitation pour l'iPhone, on parle que c'est compatible jusqu'à l'iPhone 6S et l'iPhone SE de première génération. Ça commence à dater pour ces téléphones-là, si je me rappelle bien. C'est dans le coin de 2015-2016, justement. C'est qu'on parle que c'est ça la grande force d'Apple sur les Android, c'est qu'ils sont capables de maintenir la mise à jour sur autant d'ancienneté d'appareils. On parle que Google vous certifie qu'ils vont être capables de faire des mises à jour sur leur série Pixel pendant 2 ans. Mais Apple, on est à 5 ans. Pour des téléphones de voilà 5 ans, sont encore mis à jour aujourd'hui. C'est impressionnant là-dessus. Puis encore là, une fois pour continuer à closer le fameux petit point, Apple sort 2 nouveaux services qui est Apple Fitness Plus, qui est un service d'entraînement avec des vidéos et tout ça. Évidemment, ils vont utiliser l'Apple Watch et l'iPhone et évidemment peut-être l'iPad ou l'Apple TV pour vous proposer des vidéos à vos besoins, en fait. C'est quoi vous voulez faire? Vous voulez vous muscler, perdre du poids ou quoi que ce soit? Ils vont vous proposer les bonnes vidéos pour vous. C'est avec qui se lance dans le fitness à Apple. Et ils offrent un nouveau service qui n'est pas encore offert, mais qui va être bientôt offert d'ici la fin de l'année. C'est marqué dès cet automne. Qui s'appelle Apple One. Apple One, qui est un regroupement de services. Et ça, my God, à mon avis, c'est une révolution. J'attends à ce que Spotify et Netflix s'associent pour faire la même affaire. Dans le fond, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quelqu'un qui va payer à Apple One, ben, il va avoir, exemple, Apple Music, Apple TV+, va avoir Arcade, va avoir News, va avoir Fitness et va avoir iCloud. C'est qu'il peut avoir jusqu'à 6 services dépendamment du prix et on va sauver en moyenne de 10$ à 30$ dépendamment des services que vous choisissez. C'est que ça peut être vraiment intéressant. Moi, j'ai juste regardé Apple One Family. Ça nous donne Apple Music pour 5 utilisateurs. Ça nous donne un iCloud de 200 gigs pour 5 utilisateurs. Ça nous donne Apple TV+. Ça nous donne Arcade également. Arcade, c'est un peu comme Xbox Game Pass ou PlayStation vient d'en sortir aussi, que je ne me rappelle plus du nom. Dans le fond, c'est des jeux qui normalement sont payants, mais là, en payant le service, mais les jeux deviennent gratuits. C'est un peu un Netflix, mais pour les applications payantes. Pour les jeux. Les jeux payants, excusez-moi. Et après ça, News, qui est un espèce de journal slash magazine d'actualité que vous pouvez payer. Dans le fond, ça vous regroupe quelques journaux et quelques magazines dans la même application directement, au lieu de tout le temps les acheter séparément avec des abonnements séparés. Ben là, ça regroupe tout ça maintenant. C'est que ça, c'est ce qui conclut l'actualité Apple pour cette semaine, pour vrai. Parce que c'est 3 fois que je dis ça que c'est ce qui conclut l'actualité Apple. Aussi, je vais vous parler là. C'est pas ça que je veux faire pendant que je vous parle. La nouvelle GoPro. On va aller sur le site de GoPro directement. La nouvelle GoPro Hero 9. Le temps, excusez-moi, c'est le temps de tout faire pour que tout soit prêt. Voilà, partage d'écran. Voilà, passons direct. C'est que la nouvelle GoPro Hero 9 qu'on peut maintenant acheter. Une GoPro qui est plus grande que les anciennes générations de GoPro et qui change beaucoup de choses. Parce oui, que qui beaucoup, dit hein? GoPro plus grande, toi, tu es en train de chercher la tienne en ce moment, je pense. Voilà, il est en train de la montrer à l'écran. On va juste revenir pour vous la montrer. La GoPro Hero 8 que mon cher collègue MMO a. Ben, la GoPro Hero 9, mon cher MMO, elle est plus grande. C'est avec toutes les espèces de boîtiers que tu avais ne fit plus. C'est que je me rappelle, je sais que GoPro, j'ai oublié de remettre le truc en plein écran ici comme ça. GoPro avait sorti littéralement une espèce de case avec un micro intégré, que tu avais une sortie HDMI, puis tu avais une entrée jack micro également. Bref, tu pouvais fixer un petit écran à part dessus. Ben ça, c'est plus compatible avec la nouveau Hero 9. Évidemment, moi, j'avais un case d'Hero 7. Mon case d'Hero 7 fit, exemple, avec ta Hero 8. Parce que, tu sais, c'est la même GoPro. Même si tu n'as pas besoin de case, toi, à cause de la nouvelle attache qu'ils ont maintenant intégrée, ben, tu sais, je pouvais te passer mon case, puis tu pouvais le mettre dans un case, genre, justement, pour aller dans la plongée sous-marine plus profonde, 10 mètres ou des affaires comme ça. Mais justement, la nouvelle GoPro est plus grande. Ça ne fit plus du tout avec les nouveaux accessoires GoPro. Même la batterie a changé. Tu sais, la batterie que j'ai dans ma Hero 7, c'est la même batterie à peu près que tu as dans ta Hero 8.
Ouais,
ils peuvent s'interchanger directement. Et le chargeur aussi, si vous avez des chargeurs pour charger ces batteries-là qui durent en moyenne une heure, justement, vous pouviez facilement les changer puis des affaires comme ça. Ben, dans la nouvelle Hero 9, la batterie est plus grande pour plus de capacité. On parle de 1h20 d'autonomie, ce qui est quand même assez drôle. C'est l'autonomie des premières GoPro. C'est grosso modo, dans le temps, GoPro ont amélioré leur caméra, mais ont diminué leur autonomie pour ensuite réaugmenter l'autonomie qu'il y avait avant. C'est quand même assez comique. Mais comme vous voyez sur l'écran directement, mais GoPro a maintenant un écran couleur directement en avant pour avoir une rediffusion de ce que vous faites. Directement, là, je pense que je vais être obligé de cliquer tout simplement ici. GoPro Hero 9. Je vais revenir ici. C'est la GoPro Hero 9 à partir de... Ah! Il y a deux prix maintenant chez GoPro. Je vais vous expliquer ça aussi. À partir de 449 $ US sans abonnement. Et vous pouvez maintenant prendre un abonnement. C'est l'abonnement GoPro, je me rappelle plus trop quoi. C'est un abonnement de 1 an qui vous donne 100 $ de rabais sur la caméra. C'est l'abonnement GoPro. Ça s'appelle juste l'abonnement GoPro. Elle vous donne 100 $ de rabais sur la caméra. C'est-à-dire que la caméra vous revient à 349. Et ça vous donne du stockage illimité dans le cloud pour stocker vos fichiers ou quoi que ce soit. Ça vous donne jusqu'à 50% de remise sur GoPro.com pour les accessoires. Et ça remplace votre caméra en cas de dommage, incident ou quoi que ce soit. C'est une espèce de GoPro Apple Care, on pourrait dire.
À quel prix, déjà, par mois?
Mais je ne sais pas c'est à quel prix. Il faudrait que j'aille voir les conditions. Tu peux peut-être y aller pendant que je parle de la GoPro.
Ben, présentement, pour les abonnements, ça équivaut à 4,17 par mois si tu prends un abonnement annuel. Donc, tu payes un an au complet.
Ouais.
Sinon, tu as l'abonnement mensuel. C'est 4,99 US aussi toujours par mois. Même si on est sur un site canadien, c'est toujours en US. Par contre, ma question, ou plutôt mon questionnement, est-ce que ce produit-là va être valide pour les Canadiens? Parce que là, on parle de US, donc c'est-tu un abonnement pour les Américains?
Effectivement, très bonne question. On peut pas savoir, on n'a pas vraiment l'information de la part de GoPro. Ils vont me sortir l'information. En fait, moi, c'est ça. Hein, je commence une information d'actu, puis MMO la complète.
C'est ça. Attends, mais je crois présentement que non. À terme... Pour l'instant, on va dire que non, parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur le site. faudrait contacter le support, bien sûr, pour
leur demander. Ouais, littéralement, faudrait.
Mais ça vaut la peine. Okay, oui, sérieusement.
C'est pour le cloud illimité puis le remplacement de la GoPro, OK, ça peut valoir la peine, puis ils baissent le prix de la GoPro, mais je trouve ça fou à quel point que tout le monde se lance des abonnements. Hein. C'est comme, tu vends plus juste du hardware, tu vends un abonnement à Star maintenant avec. Imaginez si Apple commence à faire ça aussi.
Quand ça appelle les grandes succursales vendaient, ben c'est maintenant eux autres qui vont les vendre.
Ouais, c'est maintenant les autres qui vont les vendre directement aux clients. C'est que vous l'avez vu directement un peu ici en version 360. Vous voyez la nouvelle attache qu'il y a depuis l'Aero 8 que toi, tu as. La lentille qui peut maintenant se changer directement également. Qui
et
peut,
le défaut de celle-là, qui ne l'a pas.
Ouais.
Et le boîtier, c'est... donc si j'arrive un bris, l'appareil ne se change pas.
C'est triste, hein? C'est que, dans le fond, les nouvelles fonctionnalités sont résumées dans les 4.6. Mais quoi que le 10 mètres de tanche, ils l'avaient déjà. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des nouvelles fonctionnalités.
À cause qu'avant, dans les premières générations, il fallait avoir un boîtier pour permettre l'étanchéité.
Oui, oui, oui. Mais moi, ma Aero 7 est étanche à 10 mètres aussi.
Mais je parle des 4.
Ouais, Aero 4 puis tout ça, ouais, ouais. Objectif amovible maintenant, comme on vient de dire, 30% d'autonomie en plus, mais la GoPro est plus grande et les batteries sont plus grosses. Ne faites pas dans les anciennes GoPro, ils ne pouvaient pas mettre vos anciennes batteries évidemment dedans. Nouvel écran qui fait son apparition en avant. Résolution 5K pour la GoPro également en termes d'image. Ça veut dire pour le monde qui filme en 4K, vont être capables de cropper un peu dans leur image directement pour avoir. Je vous rappelle que cropper, c'est zoomer un peu dans l'image, en fait, pour pouvoir aller chercher ou enlever certains de petits détails. Exemple, je sais pas, un micro qui est dans le champ et qui devrait pas être dans le champ, peut-être, on sait pas. Des trucs comme ça. On parle de 14,7 millions de pixels ou mégapixels. Normalement, c'est mégapixels. Là-dessus aussi en photo, ça permet d'être vraiment 20 mégapixels, excusez-moi, en photo, et c'est 14,7 mégapixels en vidéo. C'est qu'au niveau photo, voyez-vous que GoPro ont toujours l'avantage de booster un peu les couleurs et des choses comme ça. Là, on voit la nouvelle lentille Max que tu parles, qui est une lentille amovible, qui nous permet de changer la lentille s'il arrive quoi que ce soit. Évidemment, avec les nouveaux modules de micro et d'éclairage. Là-dessus, le nouveau module média, j'ai un gros doute parce que c'est l'idée était très bonne dans l'ancienne génération de GoPro. Mais là, vu qu'elle est plus grande, c'est comme vous avez créé un module pour une génération de GoPro. Normalement, vous ne faites pas ça. Normalement,
et surtout
GoPro
dans la 8, elle n'a pas été disponible longtemps.
Ouais, c'est ça, ça n'a pas été disponible longtemps. C'est uniquement compatible pour la 8, en fait, l'ancien boîtier média. Puis là, tu as le nouveau boîtier média qui est compatible uniquement avec la 9. C'est comme, normalement, GoPro ne fait jamais ça dans leurs accessoires. Les accessoires sont tout le temps compatibles pour 2-3 générations de GoPro, normalement.
Mais ça, on parle de boîtier, bien sûr. Boîtier d'accessoires, là, tout ce qui touche le boîtier, tout ce qui touche en mobile, votre armature sur le corps. Vous le gardez,
il n'y a rien qui change. C'est toujours la même fixation pour les GoPro. Il n'y a rien qui change là-dessus. La seule différence, c'est qu'on n'a plus de case maintenant à cette heure. La fixation est rendue directement intégrée dans la GoPro, comme on a vu un peu plus haut. Et ça, c'est depuis l'Aero 8, c'est-à-dire l'Aero de l'année passée. Ouais. Nouvelle stabilisation, la Hyper Smooth 3.0. Et j'ai vu un extrait de la Hyper Smooth 3.0 et c'est bluffant. Sincèrement, c'est bluffant. C'est comme une caméra stabilisée sur une gimbal. C'est pratiquement pareil.
C'est pire.
C'est, même si c'est pas pire, comme tu dis, là, c'est, même si c'est pas mieux.
Ah ouais, mieux, ouais.
C'est juste hallucinant, la stabilisation 3.0. Vous irez voir, vous marquez Hyper Smooth 3.0 sur YouTube. On essaierait d'aller vous chercher une vidéo, vous mettre quelque part en description ou quoi que ce soit. C'est juste hallucinant. Ah, mais la vidéo, elle est là.
Ouais, elle est là.
Ouais, c'est ça. Elle est déjà là.
Surtout en vélo, c'est le meilleur exemple qu'on peut
mais
avoir.
Mais en vélo, c'est juste le meilleur exemple. Je vous la refais jouer.
Il faut. Je sais pas s'il est attaché sur le corps.
Oui, il est attaché directement sur le corps. C'est ça que j'ai vu comme arrière de vidéo.
Et il y a aussi la lentille, la nouvelle lentille. Fait que c'est pour ça que des fois,
c'est ça.
Vous voyez.
Il y a la nouvelle lentille, mais c'est attaché directement sur le corps. Il n'y a pas de gimbal ou quoi que ce soit là. C'est uniquement la caméra qui fait sa stabilisation-là. C'est juste incroyable.
La GoPro, elle serait capable, exemple piraté, d'être en 8K, mais c'est pour ça qu'on a une stabilisation meilleure, c'est que la résolution d'enregistrement est plus grande. Donc, ce qui est, quand on enregistre à 4K, la stabilité va être faite là. Donc, c'est. Il y a un, dans le logiciel elle-même, à l'intérieur, la caméra, elle ne bouge pas à l'intérieur, elle ne va pas se stabiliser. C'est vraiment, c'est qu'il capte plus grand
ouais,
image.
C'est le capteur qui crope
pour stabiliser.
Puis, j'ai vu des démos de ce Hyper Smooth 3.0-là. Le gars prend la caméra, il détecte un point directement devant lui, puis il tourne la caméra directement. Là. Il la tourne, là. Puis l'image reste stable, puis il reste droit. L'image reste droit. Je te dis, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable.
Déjà, la 2, l'Hyper Smooth 2,
ouais, moi, c'est la nouveauté de la Hero 7 que j'ai, c'était l'Hyper Smooth 2.0. C'était déjà wow. Mais là, l'Hyper Smooth 3.0, on est dans un autre monde directement. La personne prend la caméra directement et la tourne à 360 degrés comme ça. C'est-à-dire dans le sens vertical. Et la caméra reste stable et l'image reste droite. J'ai jamais vu ça. Évidemment, slow-mo, 249 images par seconde. Ça, par exemple, ils disent pas c'est en quelle résolution. Parce que le 249 images par seconde, c'est disponible également dans Hero 7, mais en 1080p maximum. C'est-à-dire là, ils parlent peut-être de 249 images en 2.7K, je sais pas. Ce serait intéressant à voir aussi. Timelapse 3.0 pour faire plus d'accélération, des meilleurs timelapse comme vous voyez actuellement sur l'écran, des timelapse beaucoup plus impressionnants, beaucoup plus satisfaisants. Et évidemment, le Live Botch, ça prend une photo, ça prend plusieurs photos pour prendre une photo, puis aller sortir la meilleure. Dans le fond, c'est un peu comme du HDR. Pour ceux qui n'ont pas compris, plus de rediffusion parce que la nouvelle GoPro est maintenant capable de diffuser directement avec l'Hyper Smooth 3.0, c'est ce qu'ils disent ici. Directement sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube directement. Ben là, YouTube, je sais pas, avec le fait que YouTube a enlevé le Stream Now. Ouais, mais Astor, YouTube, les lives YouTube, c'est uniquement des events, Astor. Ils ont enlevé le Stream Now de YouTube. C'est depuis septembre. C'est ce mois-ci. j'ai reçu des notifications et Restream m'a envoyé des notifications aussi. C'est avec YouTube, on a enchaîné le Stream Now.
Fait que c'est des événements.
C'est uniquement des événements à cette heure. C'est qu'il faut que tu crées ton événement à faire avant de passer en direct.
Est-ce que c'est pour forcer le monde à aller sur Facebook Gaming?
Non, parce que YouTube, c'est Google, Facebook Gaming, c'est pas YouTube. Puis YouTube, c'est Google. Puis... OK, ouais, ils ont des ententes, mais tu sais, ils vont pas faire ça pour Facebook. En fait, tu comprends.
Non.
C'est qu'évidemment, des accessoires d'éclairage qui sont maintenant compatibles avec des fixations directement GoPro. C'est que... C'est ce qui fait le tour de cette nouvelle GoPro Hero 9. Ma foi, intéressante. Avoir le prix en canadien, j'ai quand même hâte de le voir. J'ai vu qu'il y avait une carte SD de 32 Go incluse, mais ça, ils font souvent ça sur leur propre site, la promo. En fait, c'est pour t'encourager à l'acheter sur leur site web au lieu de l'acheter chez un revendeur. Ils vont te donner la carte 32 Go ben avec. Mais no joke, moi, quand j'ai acheté la mienne... Une carte 128 gigs, ça coûtait 40$. Hein? C'est-à-dire qu'une 32 gigs, ça doit coûter même pas 15-20$. Sincèrement, là, c'est des peanuts. Là. C'est vous donner 20$ de cadeau. OK, oui, ils vous donnent une carte SD avec, micro SD. Mais quand 32 même, 32 gigs, c'est rien. Là. C'est ridicule. Surtout pour une GoPro.
Pour
là.
5K.
surtout pour du 5K dans une GoPro, je vous le dis, ça va vous durer 15-20 minutes à peu près. En temps d'enregistrement, là, facilement. Parce que moi, ma 128 gigs, je me rappelle, je pensais que je topais gros avec une 128 gigs. Finalement, je me suis rendu compte que c'est genre 2 heures, 3 heures d'enregistrement, là, 128 gigs. Là. C'est que 32 gigs, vous allez topper ça en rien. Puis comme je vous dis, c'est un cadeau à 20$. C'est un peu un cadeau empoisonné. Ça veut dire que, ben, sincèrement, fiez-vous vraiment pas sur sa carte micro SD-là. Même si vous l'achetez sur le site de GoPro.
Est-ce que incluse? Non, est-ce que c'est maintenant avec l'achat de la GoPro, il y a une 32
gigs? Non, ils ont toujours fait ça sur leur site web. Puis je pense que c'est surtout genre...
OK, ouais. On le voit avec les accessoires.
Avec l'affaire de l'abonnement, là, tu sais, comme tu vois... ben, comme là, que... Pack Hero avec abonnement, là, ils donnent d'autres bebelles avec, là, mais tu sais...
Ben, je sais qu'avant, peut-être que là, c'est l'Hero 9, donc peut-être plus Black Edition. Donc, t'as juste une édition...
Non,
édition
c'est marqué
standard.
Black. Tu le vois, c'est marqué Black.
OK, Black. Fait qu'ils vont pas une silver, une white?
Ouais, c'est pas encore sorti. C'est que on sait pas, peut-être éventuellement dans le futur, on a aucune espèce d'idée. On peut pas prévoir, on travaille pas chez GoPro.
Ben non,
si vous travaillez chez GoPro, écrivez-le en commentaire. Mais peut-être, on sait juste pas. C'est ce qu'il fait le tour de cette petite actualité là, mon cher MMO. Là-dessus, moi j'ai fini mon actualité de mon côté, toi, je pense bien que tu as fini ton actualité également là-dessus. Je pense que ça a été concluant également aussi comme podcast. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment t'as
pensé? C'était le fun. C'est le fun, ben, surtout qu'on tient les gens au courant de ce qui est arrivé. Ce qu'on peut avoir aussi comme information. Donc, on ne travaille pas nécessairement dans ces compagnies-là. Donc, on essaie de voir ce que les actualités nous donnent. Prochainement, moi, je sais que je vais me permettre plus d'actualités. Donc, aller fouiller un peu plus sur nous, des nouveautés de produits. Autant sur les appareils photos, sur les caméras.
Ouais, vraiment.
Je vais essayer de vous tenir au courant via l'actu, donc avec Map, bien sûr.
C'est ça. Puis moi, de mon côté, ben, on va essayer de vous faire ça environ peut-être une fois par semaine, ces podcasts-là, dans la limite du mesure. Moi, je vous dirais ça à peu près une fois par semaine pour commencer. C'est sûr, pas de date précise. Il faudrait voir, d'après tout simplement, nos horaires, qu'est-ce qui nous convient le mieux. Je pense en plus que le setup est intéressant. On a une bonne qualité audio sur Discord. En plus, qu'on est capable d'avoir de la vidéo et on est capable de partager facilement les écrans. Discord, c'est un magnifique outil pour ça. Ça marche très bien. Et moi, en plus, j'ai le Discord Nitro, ce qui me fait que j'ai boosté le serveur Discord, ce qui nous donne droit à une meilleure qualité audio et à de la meilleure qualité vidéo également. Quand on fait ces interventions-là, c'est qu'on va continuer à utiliser Discord pour ça. C'est pas sponsorisé par Discord, ça fait que je le paye, mais c'est le fun à utiliser comme outil. Après ça, comme je vous dis, vous pouvez nous retrouver également sur le site web lactu.ca, lactu.ca. C'est assez court comme nom de domaine, j'en suis assez fier, c'est que vous pouvez y aller. C'est pas méchant et je construis le site moi-même, c'est-à-dire que j'essaye de faire ça du mieux que je peux. Il y a une section blog que là on va mettre plus d'actualités écrites, on pourrait dire, quoique là je n'ai pas fait depuis un mois, c'est-à-dire qu'il faudrait que je me botte un peu le cul. Et il y a la nouvelle section podcast qui est la section que vous écoutez actuellement, normalement. Et évidemment, vous pouvez aller vous abonner directement à la chaîne Twitch de l'actu, je vous le rappelle, lactu_CA, c'est-à-dire lactu_CA. Ou vous pouvez tout simplement taper live.lactu.ca dans votre navigateur Internet. Ça va vous rediriger directement sur le site Twitch, directement. Pareil pour la chaîne YouTube, l'actu, blog d'actu, excusez-moi, podcast et blog d'actualité. Encore là, une fois, yt.lactu.ca, c'est-à-dire yt pour YouTube, c'est-à-dire yt.lactu.ca. Vous pouvez taper ça dans votre navigateur. Ça va vous rediriger directement sur la chaîne YouTube de l'actu, sur laquelle on va mettre ce podcast-là également, et qu'éventuellement, il va y avoir nos lives également diffusés sur YouTube, et évidemment aussi la page Facebook de l'actu, qui est là où on va pouvoir tout simplement partager toutes les dernières actualités qu'on trouve à vous partager. C'est que c'était tout simplement DJ Map Music, ou comme on m'appelle aussi des fois Maprob, ou juste Map, et c'était, je te laisse te présenter, pour la fin.
Donc, moi, c'est MMO. C'est ça. Donc, je souhaite tous une bonne soirée et je laisse le dernier mot à Map.
C'est que on va se dire à une prochaine actu sur lactu.ca. Merci, au revoir. Bye.